Bonjour. Aujourd'hui, nous offrons une section de texte tirée des médias suivants, La Presse et Le Devoir. Au programme, Forteresse Canada, éloge de la sobriété et la financiarisation des logements plus importants que l'on croyait à Montréal. Bonne écoute.
Forteresse Canada, un texte de Laura Julie Perrault, paru le 25 mars 2023 dans La Presse. Le chemin Roxham n'a jamais été ouvert. Il faut se rendre sur place pour comprendre. L'endroit où des milliers de migrants ont traversé la frontière depuis 2016 était un croisement entre un champ de patates, un no man's land et une arrière-cour d'écurie. Pour beaucoup, ce petit chemin de terre était la route de l'espoir. Souvent après un long et âpre voyage à travers l'Asie, la Méditerranée, les Amériques. Ceux qui l'empruntaient des États-Unis vers le Canada savaient que la distance à parcourir à pied était courte, qu'ils allaient être appréhendés par la Gendarmerie royale du Canada, mais qu'ils auraient rapidement le droit de demander l'asile. Ce qui rendait le petit chemin de Montérégie attrayant aux yeux de beaucoup, c'était justement sa prévisibilité. Une rareté sur les routes tortueuses de la migration internationale. Pas de crocodiles ou de gangs armés. Pas d'embarcation de fortune qui prend l'eau, juste un chemin de terre et un policier au bout, plus amical que répressif. J'écris mes premiers paragraphes au passé parce que dans la nuit de vendredi à samedi, à minuit et une minute, le chemin Roxham, qui n'a jamais vraiment été ouvert, s'est transformé en mur. Depuis minuit une, toute personne qui n'est pas canadienne ou américaine et qui voudrait franchir la frontière entre deux postes officiels, comme au chemin Roxham, se heurtera à ce mur, sans savoir ce qui l'attend après. À Ottawa, vendredi, Joe Biden et Justin Trudeau se sont félicités de travailler ensemble pour assurer la sécurité des frontières et renforcer la migration régulière. C'est en ces termes qu'ils ont annoncé les modifications à l'entente américano-canadienne sur les tiers pays sûrs qui, depuis 2004, oblige les demandeurs d'asile à demander la protection dans le premier des deux pays qu'ils foulent. L'entente, qui ne s'appliquait qu'aux postes frontières officiels, englobe maintenant les deux frontières en entier. Les deux dirigeants y voient une manière de colmater une brèche. François Legault, lui, parle d'une « victoire » pour le Québec, qui jusqu'à tout récemment recevait la grande majorité des demandeurs d'asile arrivés de manière irrégulière. Vous m'excuserez si... Pour ma part, j'y vois plutôt une série d'aveuglements volontaires. Ni M. Biden ni M. Trudeau n'ont rappelé que l'entente sur les tiers pays sûrs était devant la Cour suprême du Canada, qui devra trancher si elle respecte la Charte des droits et libertés du pays. Notre argument, c'est que les États-Unis ne sont pas un pays sûr où renvoyer les demandeurs d'asile, et c'est sur ce point qu'un juge de première instance nous a donné raison, notamment à cause des conditions de détention imposées aux migrants, rappelle France-Isabelle Langlois, directrice générale d'Amnesty International pour le Canada francophone. Et la situation n'est pas en train de s'arranger au sud de la frontière, où Joe Biden vient de donner un tour de vis pour restreindre le droit de demander l'asile. Selon les nouvelles règles, ceux qui n'auront pas demandé l'asile dans un pays de transit comme le Mexique, avant d'arriver à la frontière américaine, seront refoulés. Ceux qui tentent d'entrer dans le pays de manière irrégulière plutôt que d'attendre pendant des mois un rendez-vous à la frontière seront aussi exclus. La mesure est tellement dure qu'elle lui a valu le surnom d'Asylum Ban ou embargo sur l'asile dans les milieux progressistes. Ce surnom fait écho au « Muslim ban » de Donald Trump, une mesure que le président républicain avait adoptée pour freiner la venue aux États-Unis de ressortissants de plusieurs pays musulmans. Dans de telles circonstances, qu'arrivera-t-il aux migrants qui seront refoulés vers les États-Unis selon les nouvelles modalités de l'entente canado-américaine? Pourront-ils demander l'asile? J'ai passé la journée de vendredi à poser la question à des experts de l'immigration au Canada et aux États-Unis et personne n'avait la réponse. Autre angle mort. L'effet à long terme des nouvelles règles qui prévoient que les migrants peuvent être refoulés dans les 14 jours qui suivent leur entrée au pays de manière irrégulière. Les passeurs doivent se lécher les babines. Combien offriront aux migrants de les aider à passer la frontière de manière clandestine? Il y a du choix. La frontière canado-américaine fait 9000 km de long, pour ensuite les cacher jusqu'à ce qu'ils puissent se présenter aux autorités. Et qui pourra déterminer si quelqu'un est sur le territoire depuis plus de 14 jours? On ne reçoit pas un tampon dans son passeport quand on arrive dans un champ en pleine nuit. Ça sent déjà le profit pour les exploiteurs, le danger pour les migrants et les maux de tête pour les policiers. Et que dire d'un autre oubli sous-jacent, celui de nos obligations internationales? Depuis la Seconde Guerre mondiale, on n'a jamais vu autant d'êtres humains se déplacer pour se mettre à l'abri de la guerre, de la persécution et de cataclysmes divers. On parle de 90 millions de personnes en exil forcé. La grande majorité trouve refuge dans un pays voisin, mais certains atteignent l'Occident. L'an dernier, ils ont été près de 90 000 à frapper aux portes du Canada, dont 40 000 au chemin Roxham. Pas exactement la mer à boire dans un pays qui accepte bon an mal an de 300 000 à 500 000 immigrants qualifiés. Et rappelons-nous que nous avons signé des conventions internationales qui nous empêchent de les refouler, de les retourner à leur sort. Longtemps, le Canada a été un modèle dans ce domaine, le meilleur par défaut, comme je l'écrivais dans un récent dossier. Dans ce système d'immigration et de droit d'asile, il y a beaucoup de progrès à faire, pour le rendre meilleur, plus efficace, pas pour le transformer en forteresse. C'était Forteresse Canada, un texte de Laura Julie Perrault, paru le 25 mars 2023 dans la presse.
Éloge de la sobriété, un texte de Paul Journet, paru le 25 février 2023 dans la presse. En lisant « L'équilibre énergétique » de Pierre-Olivier Pinault, on réalise à quel point la transition énergétique pourrait aussi être une révolution du bon sens. Elle exige des changements à la fois radicaux et à portée de main, démontre le titulaire de la chaire de gestion du secteur de l'énergie à HEC Montréal. Son nouveau livre est un modèle de clarté et de concision. En moins de 200 pages, il brosse le portrait énergétique du Québec, expose les enjeux économiques et écologiques et propose des solutions concrètes et applicables, à condition d'avoir la volonté de le faire. Les technologies requises existent déjà. C'est le train, le bateau, le vélo, la densification de milieux de vie, l'isolation des bâtiments et une consommation plus sobre. L'essai montre que de nombreux changements requis ne feront pas forcément mal. Se libérer de notre dépendance aux énergies fossiles améliorerait notre santé, diminuerait nos dépenses et réduirait le risque de conflit. Voici l'interview remaniée à des fins de clarté et de concision. Quand un politicien dépose un plan qui ne permet pas d'atteindre ses cibles de réduction de gaz à effet de serre, GES, il dit miser sur le développement attendu de nouvelles technologies qui feront le reste du travail. Est-ce justifié? Ces technologies font rêver, mais elles sont surtout utiles pour un gouvernement qui ne veut pas agir. On se dit, pourquoi bouger maintenant si on peut attendre quelques années pour faire la transition à un moindre effort? En ce sens, la technologie devient une alliée du statu quo. Elle sert aux élus qui ne veulent pas demander aux citoyens de changer leur mode de vie. Selon vous, les technologies les plus importantes, nous les avons déjà? Tout à fait. On a la bicyclette, la marche, le métro et le train pour se déplacer. Le train consomme près de 3 fois moins d'énergie par passager que la voiture électrique. Quelle devrait être la place de la voiture électrique dans la transition? On doit arrêter de croire qu'en électrifiant l'auto solo, nos problèmes vont se régler. Sur le cycle de vie, ces véhicules exigent beaucoup d'énergie. Il faut de l'aluminium, de l'acier, des minerais pour les construire. De plus, ils suivent la tendance des véhicules à essence en devenant plutôt gros. Ils requièrent aussi de l'électricité pour fonctionner. Et enfin, ils légitiment l'étalement urbain qui incite à construire plus de routes, plus de grosses maisons et plus d'infrastructures coûteuses. À cause de cet étalement, il devient aussi plus difficile de rentabiliser le transport collectif. Ce n'est pas le modèle à encourager. Mais la densification peut-elle s'appliquer en région? On ne peut pas tous habiter au centre-ville de Montréal, bien sûr. Mais la densification ne veut pas dire ça. Il faudrait plutôt créer des poches de population proches des services. C'est comme cela qu'on faisait au 19e siècle. Des villages se construisaient, par exemple, dans les Laurentides, autour de la gare de train. C'est un modèle qu'on peut appliquer dans des villes de différentes tailles. Parlez-nous de l'effet rebond qui explique pourquoi des nouvelles technologies ne réduisent pas notre empreinte écologique. Prenons l'exemple de l'ampoule. Les nouveaux modèles sont plus éco-énergétiques. Mais comment a-t-on réagi? On en achète plus, ce qui annule le gain. Même chose avec les frigos. Ils ont diminué leur consommation de 50%, mais des ménages en ont maintenant 2 ou 3, comme s'il fallait en permanence garder 48 bières fraîches pour la visite. Enfin, il y a les voitures. Leur moteur consomme moins d'essence. Alors, on a construit des modèles plus gros, ce qui annule le gain. C'est ça, l'effet rebond. Le transport actif est-il une solution applicable en banlieue? Le vélo n'est pas pour tout le monde, bien entendu, mais on peut l'encourager. C'est meilleur pour la santé et pour le portefeuille. C'est absurde de se rendre au gym en voiture pour aller faire du vélo stationnaire. Autre chose à favoriser, l'autopartage. Les voitures sont stationnées 90% du temps. C'est du gaspillage. Il suffirait de subventionner un peu les opérateurs d'autopartage comme Communauto pour les aider à y développer une masse critique d'usagers et devenir rentables. On devrait s'engager dans un cercle vertueux où il y aurait plus de gens qui utilisent le transport actif et collectif, ce qui améliore le financement et donc les services, en plus de réduire l'argent allant aux routes, et ainsi de suite. Vous écoutez Éloge de la sobriété, un texte de Paul Journet, paru le 25 février 2023 dans La Presse. Mais les gens disent aimer la liberté que leur procure leur véhicule. Un matraquage publicitaire hallucinant vend les véhicules comme une façon d'accéder à de grands espaces, à la liberté, à se rendre au sommet de la montagne en pick-up pour faire du ski doux. Mais cette prétendue liberté dépend en fait de la collectivisation du coût des infrastructures routières. Les routes ne sont pas gratuites. On le fait payer à tout le monde et ça coûte très cher, sans compter l'impact sur les écosystèmes. Vous écrivez qu'on dépense plus pour remplir nos voitures que pour l'éducation. Quand on inclut tous les frais, raffinage, taxes, etc., en 2019, le Québec a dépensé près de 20 milliards en pétrole et en diesel. Comme société, c'est difficile de faire pire. On n'investit pas cet argent. On le brûle littéralement. Et on s'endette aussi. Après le logement, le transport est la deuxième source d'endettement des ménages. Aux États-Unis, depuis 20 ans, les prêts automobiles ont augmenté plus vite que les prêts hypothécaires. On n'a pas de données pour le Québec, mais c'est probablement assez semblable. Chez nous, on sait que le transport représente 13 % des dépenses annuelles moyennes des ménages. Encore plus que pour l'alimentation. Si on est dépendant du pétrole, pourra-t-on s'en libérer si vite? Ou va-t-on continuer à en avoir besoin? La notion de besoin est intéressante. Il n'y a qu'un seul véritable besoin en énergie, se nourrir. Sinon, on meurt. Pour le reste, on peut s'ajuster. Et en alimentation, on peut faire mieux aussi. L'alimentation est responsable de 24 à 36 % des GES mondiaux. On mange beaucoup de bœuf, qui émet 49,9 kg de GES par 100 g de protéines. Pour les légumineuses, c'est seulement 0,8 kg de GES. Si on mangeait un petit peu moins de viande rouge, on épargnerait de l'argent, on serait plus en santé, on gaspillerait moins d'eau et on réduirait le réchauffement du climat. Voilà une vieille technologie qui n'exige pas de véritables sacrifices, à part faire attention à soi. Exactement. Pour revenir au pétrole, la consommation n'arrêtera pas complètement. On voudra encore asphalter les routes, fabriquer certains produits en plastique et étanchéifier les toits, par exemple. Mais là encore, ce serait préférable de le faire sans prolonger les routes ni grossir les maisons. Devrait-on alors refuser les nouveaux projets pétroliers et gaziers? Ce n'est pas l'approche que je préfère. Sinon, on s'en remettra à d'autres pays comme la Russie, l'Iran, le Qatar et l'Arabie saoudite. Et je ne veux pas leur donner plus de pouvoir. Je souhaiterais plutôt qu'on envoie des messages forts au marché, une éco-fiscalité dissuasive pour que les consommateurs cessent d'acheter du pétrole et que les investisseurs ne veuillent plus développer de projets. Comme hausser la taxe sur l'essence? Oui, mais ce n'est pas tout. Je pense aussi à limiter l'étalement urbain et à interdire le dézonage de terres agricoles. Nos cibles actuelles ne sont pas sérieuses. Regardez l'interdiction de vente de véhicules à essence à partir de 2035. Ça se fera déjà naturellement. Le gouvernement s'en vante, mais il ne change à peu près rien. Les pétrolières misent beaucoup sur la capture et le stockage de carbone. C'est une solution? Ça ne sert à rien de dépenser autant pour séquestrer les émissions d'un produit qu'on ne devrait plus consommer. Tous nos efforts devraient servir aux autres sources d'énergie. Au début de février, la pétrolière BP a écrit dans son rapport annuel que l'invasion de l'Ukraine et la nouvelle loi américaine anti-inflation vont réduire la demande mondiale pour le pétrole. Dans chacun des scénarios, le sommet de la consommation a déjà été atteint. Et la Chine? N'est-ce pas décourageant de faire des efforts quand on voit les émissions de l'Empire du milieu? Nous sommes plus riches que la Chine. Nous polluons plus par habitant que les Chinois et nous sommes responsables historiquement d'une plus grande part des émissions mondiales de GES. On doit exercer un leadership moral. Si on ne le fait pas, ils auront moins de raisons de nous suivre. Et de toute façon, sur un plan strictement égoïste, la transition énergétique serait une bonne chose pour nous. On utilise mal nos ressources, on les gaspille, on s'appauvrit et on se rend malade. Pourquoi vouloir continuer comme ça? C'était « Éloge de la sobriété », un texte de Paul Journet, paru le 25 février 2023 dans La Presse.
La financiarisation des logements plus importante que l'on croyait à Montréal. Un texte de Zacharie Goudreau, paru le 21 mars 2023 dans Le Devoir. Les logements locatifs se sont concentrés en un nombre restreint de mains dans les dernières années à Montréal, contribuant à l'émergence de grandes tours dans les quartiers centraux, mais aussi à une pression accrue sur les loyers, selon trois chercheurs universitaires. Ces derniers, qui œuvrent au sein de l'Université McGill et de l'Université de Waterloo, ont publié une étude récemment dans le Journal of the American Planning Association. Le document, d'une quinzaine de pages, se penche sur la financiarisation des logements locatifs à Montréal, soit lorsque ceux-ci sont détenus par des promoteurs immobiliers qui collaborent généralement avec des fonds d'investissement pour réaliser leurs projets. À Montréal, il s'agit notamment du Fonds immobilier de solidarité FTQ de Claridge et de Fiera Capital. En analysant les données sur la propriété foncière de la Ville de Montréal, le registre des entreprises du Québec et les annonces du marché locatif privé diffusées en ligne sur les sites Craigslist et Kijiji, les chercheurs ont constaté que 0,46% des 129 960 propriétaires de la métropole possédaient en 2020 près de 32% des quelque 566 600 logements locatifs de Montréal. La propriété à Montréal est très concentrée, résume ainsi en entrevue au Devoir la chercheuse à l'Université de Waterloo, Chloé Saint-Hilaire, une des auteurs de cette étude. Les 600 plus grands propriétaires possédaient en moyenne 300 logements locatifs, montre l'étude, celui en haut de la liste en comptant 5680 à son actif. Parmi ces importants propriétaires fonciers, plusieurs sont financiarisés, ces derniers ayant tendance à construire de grandes tours comprenant un maximum de logements, souvent de petite taille, pour maximiser leurs profits. Ainsi, en 2020, seulement 1,4% des bâtiments locatifs étaient détenus par des propriétaires financiarisés, mais ceux-ci totalisaient 11,7% de tous les appartements sur le marché montréalais. La seule analyse comparable, réalisée en 2020, évaluait à 3% l'accaparement par ce type de propriétaire, note l'étude, qui appelle les municipalités à un meilleur partage de leurs données foncières. Les municipalités publient régulièrement des informations sur les propriétaires de licences commerciales municipales, mais elles ont tendance à ne pas publier d'informations sur les propriétaires de logements locatifs. Cette disparité ne devrait pas exister, écrivent les chercheurs. Car, souligne-t-il, ce phénomène de concentration croissante des logements locatifs entre les mains d'un nombre restreint d'investisseurs immobiliers a des impacts tangibles sur les locataires, estiment les trois chercheurs. La financiarisation du logement locatif a été liée aux augmentations de loyers, aux déplacements, aux réductions de services et à l'intimidation des propriétaires, souligne l'étude, en citant plusieurs recherches menées sur le sujet entre 2018 et 2020. L'étude rappelle d'ailleurs que
Montréal était historiquement reconnu comme le paradis des locataires, avant que l'abordabilité du marché locatif de la métropole ne commence à se dégrader. À partir des années 2010, malgré une augmentation de la construction de logements locatifs construits. Une situation qui pourrait être attribuable au fait que les logements détenus par des propriétaires financiarisés sont généralement offerts à un loyer au-dessus de la moyenne du marché. On voit une corrélation entre les propriétaires financiarisés et le stress au logement, qui survient lorsqu'un locataire débourse plus de 30% de son revenu pour se loger, relève Mme Saint-Hilaire. Les quartiers centraux visés. Cette étude montre d'ailleurs que les propriétaires financiarisés, dont les logements sont généralement offerts à un loyer au-dessus de la moyenne, sont particulièrement présents dans les quartiers centraux de la métropole. Ils possèdent ainsi 31,8% des logements locatifs dans l'arrondissement de Ville-Marie, de même que 17,9% de ceux-ci dans le plateau Mont-Royal. Or, le plus qu'il y a de propriétés locatives dans le marché locatif, le plus qu'il y a de stress relié au coût du logement dans le secteur concerné, rappelle Mme Saint-Hilaire. C'était la financiarisation des logements plus importante que l'on croyait à Montréal, un texte de Zacharie Goudreau, paru le 29 mars 2023 dans Le Devoir.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoir.com. Cette émission est rendue possible grâce à Robert Chartier, Lynn Lamarche et Gilbert Lepage à la lecture, Diane Métayer, Francine Thériault et Daniel Veillette à la recherche, Nicolas Wartman à la présentation et au montage.